Non, non, vraiment.
D'un enfant qui serait Israël.
Réellement, la première génération, c'est Abraham,
qui engendre Isaac. Les deux méthodes principales ont déjà été atteintes. Abraham, c'est le tzadik de Ménatarissé. Yitzhak, c'est le tzadik de Ménatarissé. Et on attend le troisième moment, le tzadik de Ménatarissé, qui recevra le nom d'Israël. Nous savons par le récit que vont naître deux enfants, deux frères jumeaux, Jacob et Ésaü. Mais a priori, on ne s'attend pas à cela. On s'attend à ce que. Ainsi qu'a priori les choses auraient dû normalement se développer. Donc, il faut d'abord étudier, même si j'y ai fait allusion, on va prendre, parce que c'est assez important, c'est quelle possibilité il fallait surmonter pour que ce troisième enfant dans les Torahs, dans les engendrements, qui devrait être d'emblée Israël, puisse quand même être engendré à travers toutes les difficultés que la Torah nous découvre dans la rivalité entre Ésaü et Jacob. C'est clair jusque-là? Alors vous l'avez, l'indication que vous donnez déjà au verset 20, que vous allez reprendre. Vayi, Yitzhak ben Arvaim Shana, Bekarko Trishka, Bat Betuel Arami, Mipanan Aram, Achot Laban, Arami, Lo Leish. On remarque que toutes ces indications, toutes ces informations, on les connaît déjà. Par conséquent, pour quelle raison la Torah reprend, et en particulier insiste sur cette identification de la famille de Rivka par le terme de Aram. Vous n'arrivez pas à entendre ? À cause de la fenêtre. Alors fermez la fenêtre. Suivez le. C'est nécessaire que je traduise le verset parce que. Non ?
Traduisez quoi pour avoir de
l'envie ? Oui. Voilà, je relis ce verset. Vous êtes au verset 20 d'abord, ok ? Vayi Yitzhak et Isaac étaient ben arba'im shana, âgés de 40 ans, de Karto et Trifka Batetu et Arami, parce qu'ils prient. Rivka, fille de Betuel, l'araméen, à Arami, le Padan Aram, de Padan Aram, c'est le nom de l'endroit, à Chot Laban à Arami, sœur de Laban l'araméen, pour lui, pour femme. La première question que je vais poser, c'est quoi les nécessités d'une telle accumulation d'informations qu'on a déjà? Alors, ce que l'on met en évidence, c'est une des intentions du verset ici, c'est de nous expliquer à l'avance d'où vient la raison de cet obstacle de l'enfantement. Du troisième enfant qui devrait être a priori Israël, c'est l'identité arabe, l'hérédité arabe qui pèse sur la lignée de Rivka. C'est clair ? Mais le raisonnement est très simple. Il suffit de mettre en évidence le caractère systématique de l'accumulation de cette référence à arabe. Et ça s'éclaire déjà au verset suivant. Vayerta Yitzhak, Lachem, Menochat Rishto, Yaakarahi. Et Isaac pria. Face pour sa femme, car elle était stérile. Je ne sais pas si je l'ai indiqué, on ne devrait pas traduire vraiment Akara ici par stérile, mais que ce soit le sens habituel, puisque stérile ça veut dire être empêché d'avoir un enfant, or comme être dans l'impossibilité d'avoir un enfant, or comment on va apprendre que Rivka va enfanter, c'est qu'elle n'était pas stérile de nature, mais empêchée d'enfanter. C'est clair jusque-là ? Vous avez compris ce que je veux dire ? Quoique, un midrash dit que, déjà à propos de Sarah, mais aussi de Rivka, qu'il y a eu un bouleversement miraculeux et absolu, qu'elle ne pouvait pas enfanter, mais le miracle a fait qu'elle a enfanté quand même. Mais pour le moment, on va rester un peu en deçà de ce problème. Et le lien entre les deux versets nous montre que s'il y a un empêchement de l'enfantement, ça vient de ce qui nous est expliqué au verset 20 précédent, l'identité arabe qui bloque. Ça va jusque-là ? Vous allez faire l'effort de mémoire et vous rappeler si on a déjà parlé de ça. On a déjà parlé de ça. Bon, alors je parle de là. Ça veut dire, du côté de Yitzhak, il y a déjà une épuration, une transfiguration de l'identité primitive araméenne d'Abraham en identité hébraïque. Vous vous rappelez de ça ?
C'est le
oui, dans ce sens-là. D'ailleurs, je vous rappelle que Abraham est nommé la première fois par le texte Abraham à Ivri, mais que la Gemara explique que le nom, le terme Abraham renvoie. Que le terme Abraham renvoie à l'identité Aram. Rappelez. Alors que lorsque Abraham sera nommé Abraham, et le verset indique ce changement, Abraham Boim Netaticha, il y a une mutation d'identité. Je reprends les choses à la racine. Point de départ de cette histoire, alors qu'il s'agit d'un hébreu, Abraham a Ivri. Et il avait acquis l'identité arabe dans l'exil d'Okatim, et l'objectif des engendrements, dans l'ordre du récit qu'on est en train de suivre, c'est d'évacuer cette identité arabe pour permettre à l'identité révèle hébreu qui était enfouie sous la clipa de Aram de se dévoiler. Lorsqu'elle se dévoile, elle est nommée Israël. Vous voyez juste là ? Donc, alors on s'aperçoit que cette épuration a commencé déjà du côté de la lignée de Yitzhak. Abraham est déjà devenu Abraham. Abraham a engendré Yitzhak. Et pour engendrer la troisième étape, il peut y avoir une femme de la famille d'Abraham. Mais voilà que le verset la définit comme chargée de l'identité arabe qui fait obstacle. Il me semble, si vous vous souvenez avant ça, qu'on a parlé de ça assez abondamment. Il y a différentes tentatives de se dégager de cette identité arabe. Il y en a une qui se cristallise dans le refus de cette mutation d'identité, de cette évacuation d'identité arabe, c'est Laban. Et Laban va être appelé Laban à Arami, il reste à Arami. Rappelez tout ça, bien ? C'est clair dans le monde ? Alors, quelle est la possibilité ? Cet enfant qui est attendu, en tant qu'il est fils d'Isaac, fils d'Abraham, est déjà dans l'ordre du tzaddik. Mais en tant qu'il est fils de Rivka, avec toute la cardinalité que vous allez voir, il est handicapé par la clipa arabe qui risque de faire de lui un rachat. Ça va jusque-là ? Donc il y a une impossibilité. A priori, il y aurait là l'apparition d'une identité monstrueuse. Ça veut dire totalement tzaddik par Abraham et Isaac et risquant d'être totalement rachat à travers la balle par la lignée de Rivka. Ça va jusque-là ? Donc impossibilité. Et c'est pourquoi je vous avais signalé au verset 21. La Torah emploie pour dire la prière le terme le plus fort, Atira. Vous avez déjà étudié cela, fait ? Alors je ne reviens pas dans les détails pour avancer un peu. C'est simplement pour indiquer que la stratégie de la Providence va diviser, va contourner la difficulté en faisant naître deux enfants jumeaux. L'un qui est Esav et l'autre qui est Yaakov. Alors là, nous allons aborder une analyse que je vous demande de suivre avec beaucoup de détails parce qu'elle est un peu complexe. Le premier problème, c'est que on est habitué par la familiarité avec la connaissance de ce récit à l'idée que Jacob est tzaddik et que Esav est rachat. Mais au début du récit, on ne le sait pas. C'est-à-dire que ce couple de notions tzaddik, rachat, juste, méchant, si vous voulez, il n'y a pas, vous l'avez signalé tout à l'heure, on a dû le voir avant ça, il n'y a pas une prédestination, une fatalité qui fera que Jacob naît tzaddik et que Esav naît rachat. Ils sont devenus ainsi. Au point de départ, ce qui les différencie n'est pas du tout ça, que l'un est tzaddik et l'autre est rachat. Une minute. Au point de départ, le texte nous dit que il y a une option de vocation humaine différente du point de vue des fonctions de l'homme. Que Ésaü a opté pour les fonctions matérielles et que Jacob a opté pour les fonctions spirituelles. On ne l'oublie pas, a priori, que Ésaü a opté pour être rachat et Jacob a opté pour être tzadik. En fin de compte, ça va se recouper. Mais a priori, il n'y a pas de fatalité que l'un soit tzadik et l'autre soit rachat. Le problème est beaucoup plus important, disons, bien important, c'est pas le mot. Le problème est beaucoup plus profond. L'identité de l'homme est aux prises avec une tâche impossible. Comment réussir à la fois les valeurs spirituelles et les tâches matérielles? C'est incompatible. Et vous rappelez qu'on avait déjà, je ne sais pas si on l'a fait cette année, mais découvert ce problème dès l'origine du récit de l'histoire de l'humanité d'après la Torah avec Caïn et Abel. Dès l'anglais, on voit deux identités humaines attachées, attelées à résoudre le problème de l'homme. S'il y a solidarité entre les deux, il y a solution. S'il n'y a pas solidarité entre les deux, il y a échec. Or, dans le récit de l'histoire universelle qui commence avec Caïn et Abel, il y a eu échec. Entre Caïn et Abel, ça ne s'est pas arrangé. C'est ce même problème qui est repris dans la famille d'Abraham, à la racine, au fond, encore une fois, il y a deux vocations humaines qui sont en jeu dans la naissance de ces deux jumeaux, et vous avez, on est comprise, avec deux couples de notions. La vocation matérielle, la vocation spirituelle, et d'autre part, tzadik rachat. Voilà le premier schéma que je voudrais analyser aujourd'hui. Okay. Tant dans la vocation matérielle que dans la vocation spirituelle, l'homme peut être ou tzadik ou rachat. Il est arrivé, il se dévoile qu'Ésaü, qui a choisi la vocation matérielle, est devenu rachat. Et que Jacob, qui a choisi la vocation spirituelle, est devenu tzadik. Il n'y a pas de fatalité a priori au niveau de tzadik rachat. L'option a priori, c'est Homer Roar, la vocation matérielle, la vocation spirituelle. Là, même si on prendra beaucoup de temps pour ça, il faut se dégager des clichés qu'on pouvait avoir par rapport à cette histoire pour revenir au chat même du récit. La manière dont le récit nous fait assister, premièrement, à cette difficulté insurmontable de faire naître un enfant, c'est-à-dire un type d'homme, qui soit capable à la fois des tâches spirituelles et des tâches matérielles, et avec toute cette hérédité qu'il y a derrière. Je ne rappelle pas, mais je le rappelle encore une fois, en tant que fils d'Isaac, fils d'Abraham, c'est le troisième patriarche, l'homme de la vertu de vérité, qui est l'unité des deux hommes, de Isaac et d'Abraham, vous rappelez? Mais en tant qu'il est fils de Rivka, sœur de Laban, fille de Bethuel, Aram, 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 c'est Rachat Gamour. Vous voyez comment les deux qualifications se chevauchent. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps qu'il faut pour les distinguer et voir comment elles se rejoignent. Parce qu'encore une fois, si on reste uniquement à la différence, ils ont eu Rachat, Jacob Tzadik, il y aurait ce problème, est-ce qu'il y a une prédestination? Il fallait que Ésaü naisse Rachat, que Jacob naisse tzadik, alors pourquoi ils avaient puni, et pourquoi j'avais des félicités. Les autres, il y a tout à fait.
La question était par rapport à Midrash. La question était par rapport à Midrash, qui nous annonçait que quand Lucas passait devant une.
Alors explique Midrash complètement, pour ceux qui l'ont pas entendu en détail, et après je te réponds. Donc d'abord la question.
Donc la question est si eux ne sont pas
d'accès. Mais non, raconte ce Midrash. Oui, pour que ta question soit claire.
On dit que quand un des personnes de Rachim.
Rachim, c'est un midrash qui dit que.
Qui dit que quand elle passait devant.
Qui elle?
Rivka passait devant une synagogue.
Il y avait des synagogues à l'époque.
Non, pas devant une maison d'études.
Il y avait.
Non, une maison d'études, non, c'était pour.
C'est pas grave.
Devant une maison d'études, on s'en rend compte que la chose bougeait à tel point qu'elle sortait une bagarre dans son ventre. Quelqu'un voulait sortir. Et quand elle passait devant.
C'est pas clair ce que tu dis. Elle porte deux jumeaux, okay, en son sein. Hein? Oui. C'est sur le verset, il trotte cette sous, elle va dire le. C'est bien ça. Bon. Et le Midrash raconte que lorsqu'elle passait devant Hervé Tamidrash, Jacob voulait sortir. Et lorsqu'elle passait devant un cabaret, c'est Ésaü qui voulait sortir. C'est comme ça que le Midrash explique ce que dit le texte, va y trotte cette sous, elle va dire le. Elle a senti qu'en elle, il y avait un problème, les enfants, littéralement, s'entrecouraient l'un derrière l'autre. Alors voilà comment le Midrash l'a dit. Il y a un conflit déjà à l'intérieur. Alors, pose ta question.
Ma question, si eux, par le mérite, ont pris chacun leur voie, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas prédestinés à Esav, ils n'étaient pas prédestinés à être achat, pourquoi déjà dès le sein, alors qu'ils n'avaient ni voie, ni rien, et donc c'est déjà à suivre son chemin
bon, voilà. Vous avez compris la question? Je la schématise. C'est clair? Ça revient à ta question prédestination. Ça veut dire, dès le sein maternel, Esaü, c'est ce rachat qui ne cherche qu'à aller à la discothèque. Et que Jacob, c'est son tzadik qui ne cherche qu'à aller comme à Roumélie. Vous voyez? Alors, apparemment, au niveau du pshat de ce midrash, il y aurait le problème à prédestination. Je veux dire comment les chassidim ont expliqué ça. Ça ne me prend pas un peu de temps, mais ça va. Est-ce que vous connaissez l'expression talmudique? Que l'on cite au début du Shulchan Aruch d'ailleurs, Everaz, Kanamer, Dibour, Kahari, vous connaissez? Soit fort comme un tigre. Je ne lis pas la suite, chaque morceau a son. Az, Kanamer. Mais il y a une autre enseignement talmudique, Az, Panim, Lagehina. Celui qui est Az, fort, dans le sens de la force grossière. Azout. Azout, Panim, c'est la grossièreté. Az, Panim, celui qui a le visage grossier, ira à l'enfer. Alors comment on peut nous demander soit Az comme un tigre au service du Créateur, alors que d'autre part on dit Az panim la gaïna. Vous avez compris le problème? Alors voilà comment la chassidim explique ça. Jacob va dire de lui, tant qu'il est au niveau, il s'appelle Jacob. Lorsque Rebecca va intervenir pour lui dire il faut tromper Isaac, de cette sorte que Dieu obtienne la bénédiction matérielle, parfait. On reviendra là-dessus lequel. Jacob dit, papa, Ani ish halak. Ça veut dire que, littéralement, j'ai pas les poils des Esaü. Halak, ça veut dire lisse. Ça se dit en yiddish. Halak. Ça vous arrive pas de manger halak?
C'est
glat. C'est le même. Ça veut dire lisse, halak. Mais on comprend cela, ça veut dire que c'est un homme simple, paisible. Il ne peut être au service du Créateur, pour reprendre les termes du Midrash, que là où il n'y a pas de danger d'impureté. Alors quand il passe devant une yeshiva, il se sent chez lui en Dieu. Tandis que Esaü, il est capable d'être tzaddik, même dans un cabaret. Alors c'est pourquoi Esaü, il voulait aller jouer son rôle de tzaddik, même.
C'est plus difficile.
C'est plus difficile. C'est un problème qu'on a, vous avez peut-être déjà étudié, et je n'ai pas fini. Je ne suis pas en train de justifier les amis. Je vous explique cette explication des chassidim qui évacue, qui fait évanouir ton objection. Ce n'est pas du tout que Esaü était rachat, il se sentait bien à la discothèque. Il s'est dit, il y a des rachats là-bas, il faut aller les convertir. Lui, il est capable d'aller là-bas. Pourquoi c'est la même chose que Lot allant à Sodome et Gomorre? Vous rappelez du problème? Vous rappelez ça? Ça veut dire qu'il y a une problématique, il y a une question qui est posée. Qu'est-ce que Lot va faire à Sodome et Gomorre? Est-ce qu'il aime l'impureté de Sodome et Gomorre, il se sent bien là-bas? Ou est-ce qu'au contraire, il se sent assez fort pour être chargé de mission là-bas? Il y a les deux possibilités. Il se dévoile qu'en réalité, c'était peut-être qu'il aimait l'impureté de Sodome et Gomorre. Vous avez compris? De la même manière que vous avez vu. A priori, ça ne veut pas dire ce Midrash lui-même. Ne veut pas dire que comme il est rachat, il est bien chez l'Etchaïm, peut-être il peut être tzadik chez l'Etchaïm, c'était plus fort que être tzadik juste que règle chez les tzadikim. Vous comprenez le moment? Vous direz une blague qu'on va raconter chez les chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas aller au paradis. Vous ne savez pas pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a rien de défi des curies. Ils vont s'ennuyer, alors ils préfèrent aller. Vous voyez comment ça? Alors donc, réfléchis bien. Il faut se dégager de comment dire, d'un jugement a priori. A priori, même avec ces textes-là, a posteriori, il se dévoile que s'il voulait aller au cabaret, c'est parce qu'il était rachat. Mais a priori, c'est pas, il n'y a pas trop d'habitude. Vous voyez, bon, le problème n'est pas simple, on va aller lentement pour le. C'est une hypothèse possible. Écoutez, ça, il faut comprendre la mentalité des racines. C'est dans ces périlleux. Mais c'est un engagement d'être capable de porter le témoignage de la Torah là où c'est plus dangereux. Alors il y a ceux qui ne peuvent pas, ils ont peur, ils s'enferment là où il n'y a que la sainteté. Mais si vous rappelez les enseignements déjà des générations précédentes, à propos de Hanoch, vous vous rappelez, on écrivait cela, Hanoch, Moudiotef, marchait avec Dieu. Alors Dieu l'a pris. Vous vous rappelez? Parce qu'il fallait marcher avec les hommes. Mais là, il avait peur. Vous vous rappelez ce que dit Rachid, il avait peur d'aller là où les hommes vivaient dans la ville, où il y a le bien et le mal mélangé.
Avant le temps.
C'est pourquoi il a pris avant le temps pour pas qu'il risque de venir. C'est-à-dire, c'est plus difficile d'être sadique dans la ville que d'être sadique au couvent. Vous avez compris? Comment les chassidim ont réinversé le village. Jacob, tant qu'il n'est que Jacob, n'est pas capable d'être as. Alors il va à l'église. Mais tant que Esaü est capable, il va au couvent. Vous avez compris? C'est une éventualité que l'histoire montrera pourquoi Esaü voulait aller là où il allait. Mais n'oublie pas que dans ce livre-là, Jacob, et à ce niveau, Jacob ne s'appelle pas encore Israël. Jacob, que Jacob, ne peut aller que là où il va, à la synagogue. Esaü, que Esaü, ne peut aller que là où il va, au cabaret. Où on cherche l'identité d'Israël. Ça, on verra par la suite. C'est clair, je résume. Le fait que, nous avons dit, les versets, dès leur enfance, il y a une option différente. Esaü choisit le monde matériel. Jacob choisit le monde spirituel. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient prédestinés l'un à être sadique, l'autre à être rachat. Parce que ce que je vais ajouter, tant dans la vocation matérielle, on peut être ou sadique ou rachat, tant dans la vocation spirituelle, on peut être ou sadique ou rachat. C'est clair? Il n'y a pas de fatalité. Ce qu'il y a, c'est une différence d'option de vocation humaine. Ça va mieux jusque-là? Bon, en quelque sorte. Vous ne pouvez pas être impressionné quand je vous dis quelque chose. Si ce n'est pas clair, dites-moi.
Sans parler vraiment de ta destination, on voit que par exemple, il y a des hypothèses évacuées. Bon, au niveau de Rivka, il faut bien qu'elle les évacue. Donc on sait qu'obligatoirement, au niveau de ta descendance, il risque d'avoir un problème. C'est pour ça que les deux prix
font prière. C'est pour ça que
les deux font prière. Donc déjà, on s'aperçoit qu'une, elle avait été prise pour avoir un sadique, et sera prise pour avoir éventuellement même un rachat.
C'est ce qu'on a vu au cours précédent. Mais ça veut dire qu'ils ont accepté le risque, l'enjeu, même si c'est difficile. C'est notre problème. C'est lié, mais c'est notre problème. Notre problème, c'est que est-ce que c'était fatal qu'Ésaü soit un rachat? Et c'était fatal que Jacob soit un tzaddik? Et ça, on va passer toute l'heure ce matin pour élaborer cela. Et est-ce qu'il y a une gemara brachot ici? Une certaine gemara brachot. Il n'y a pas? Oui, regardez, je vais d'abord faire cette première analyse, et après on revient au sujet lui-même. La Torah nous avertit de la difficulté d'engendrer un seul être qui soit à la fois fils d'Isaac et fils de Rivka. Et c'est ça qui est attendu. Parce qu'en tant que fils d'Isaac, il y a le risque qu'il soit tzaddik gamour. En tant que fils de Rivka, il y a le risque qu'il soit rachat gamour. Un monstre. Qu'est-ce? Alors, la naissance est empêchée. Quelle est la stratégie qui va bousculer la difficulté? C'est deux jumeaux, et on s'aperçoit, d'après le récit, que chacun d'entre eux a une option de vocation humaine radicalement différente. On ne parle pas encore de Tzadik Rachab. Est-ce que vous avez bien compris la question? Bon, alors je vais prendre la question. C'est pour vous parler, hein? Il n'y a pas un œuf? Il y a un œuf. Ah, c'est l'écran de l'œuf. On savait, je vous dirai de la mémoire, je ne me pas, rappelle-moi, c'est la page 4 à l'heure, je vous oublie. Et je vous donne le nom, je pense. Donc, prenons le cas de la vocation matérielle. Alors, dès qu'on pose cette définition, on a tendance à se dire, quelqu'un qui choisit la matière, les tâches, vous avez compris à quoi je fais allusion, il faut aménager la civilisation terrestre. Ça, c'est les tâches matérielles. Transformer la nature en monde habitable. Et l'homme a toute une partie de son énergie engouffrée dans cette vocation-là. Okay? D'autre part, l'homme a des exigences spirituelles. Et il y a toute une partie de son énergie polarisée sur les exigences de la vocation spirituelle. C'est clair. Alors je prends la première vocation. Je vais donner un exemple très simple dans le folklore juif. En fin de compte, comment s'est définie pendant 2000 ans d'histoire juive l'option de la vocation matérielle, on a laissé à la langue obliger toutes les tâches de la civilisation pratique au goyim, et puis qu'est-ce qu'on a pris comme tâche de civilisation matérielle? Le commerce. Alors, on va se poser une question. Est-ce qu'un commerçant peut être sadique? Il suffit d'avoir choisi d'être commerçant pour être rachat. Vous connaissez un commerçant honnête? Oui, on aurait tendance à raisonner comme ça. Commerçant honnête, c'est une contradiction dans les termes. Eh bien, il faut se défaire de cette apparence. Il y a des commerçants honnêtes. Je vous ai rassuré. Même chez les non-juifs. C'est-à-dire, c'est pas évident a priori que parce qu'on a choisi une tâche terrestre, on devient rachat. C'est pas évident a posteriori que parce qu'on a choisi une tâche matérielle, on devient matérialiste. On va voir que Ésaü s'est fait avoir. Il a choisi les tâches matérielles, il est devenu rachat. Mais c'est pas a priori fatal. C'est ça que je vais vous habituer. Okay? Et il faudra reprendre ce raisonnement 100 fois de retour. Parce qu'on a beau se dire, oui, du point de vue de la raison, c'est clair. C'est pas parce qu'on a choisi l'option matérielle qu'on est forcément une crapule. Mais voilà que c'est comme ça que ça se passe, la Rome, en général. Okay? C'est-à-dire, on a tendance à penser que c'est plus difficile d'être un juste si on s'occupe d'une banque que d'être un juste si on s'occupe d'une école. Et je réponds, attention, modifiez ça, c'est pas évident. Nous allons rencontrer, je ne sais pas si c'est cette année ou l'année prochaine, un personnage du récit biblique dans la famille Jacob qui va donner un démenti à Ésaü. C'est qui? Yosef. Yosef, c'est l'engagement matériel sadique. C'est pourquoi le Midrash va établir que le Sitnon chez Esav, le vainqueur d'Ésaü, ça sera Joseph. Ça veut dire Joseph disqualifie Ésaü. Il est chef d'empire, tzaddik. Est-ce que c'est clair? Non. Alors, de la même manière, dans l'autre, après, je pose la question. De la même manière, dans l'autre vocation, vous voyez qu'il suffit d'avoir la vocation de l'esprit pour être tzaddik. Le monde entier est encombré de vocations spirituelles impures. Par exemple, j'ai une idée à l'esprit. Imaginez un ayatollah communiste. Il est voué à la vie de l'esprit. C'est une crapule en béton armé. Vous remarquez ça? Vous voyez qu'il suffit de s'occuper de Torah pour être caché. C'est aussi périlleux que dans la première problématique. Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire, quelqu'un qui a l'option matérielle peut être tzaddik, et quelqu'un qui a l'option spirituelle peut devenir rachat. Vous avez compris? Après, faites un rassemblement des gens d'esprit dans le monde. Je dirais qu'une minorité infime, c'est des tzadikim.
Mais la cause, c'est pas un choix spirituel, c'est ça. Principalement, c'est un choix de spirituel juif.
À certaines façons, pour moi, il n'y a pas de juif. On est par le niveau de la vocation humaine. Il est Yosef Ohalim. Il a préféré la vie dans les tentes. On établit les tentes, la tente, pas la madame. Que les 30, c'est la maison d'études. Alors pour les juifs, la maison d'études, c'est la Torah. Et ça veut dire que ce que j'essaie de faire, c'est de distinguer ces deux couples de notions. Vocation matérielle, vocation spirituelle, ça dit rachat. Il n'y a pas de fatalité a priori. Alors ça, c'est clair au niveau de l'analyse rationnelle. Mais on risque d'être chaque fois repris par la même impression, mais c'est une habitude qui n'est pas seulement de l'habitude de la pensée. Il semble que l'expérience nous oblige à craindre, à croire qu'il y a prédestination, qu'il suffit de prendre l'option matérielle pour devenir achat, qu'il suffit de prendre l'option spirituelle pour devenir sadique, mais c'est faux. C'est pour ça que je vais vous citer un passage dans le Gemara qui le montre bien. Alors avant d'y arriver, c'est clair jusque-là, okay. Je peux vous montrer dans Rashi, si vous voulez. Vous voulez qu'on le voit dans Rashi? Alors prenez le verset. Un peu plus loin. Vous allez prendre le verset 23. Alors, je lis d'abord le verset 23. Et lorsque Rivka s'entend qu'il y a en elle un problème, elle va demander à Dieu explication. Alors la réponse est, voyons vers Hachem là, et Dieu lui dit, « Chene goyim bebitner, il y a deux nations en ton sein, où Shneéouim, les deux peuples, Nimmehaï, il paraît d'où. Dès tes entrailles se séparent. Alors, prenez Rachid sur Nimmehaï, il paraît d'où. Dans Rachid. Bien. Et je traduis. Dès tes entrailles se séparent. Tu vois comment ça se rattache à ton ouvrage. Déjà dans les entrailles. Alors là, voici ce que Rachid dit, je traduis immédiatement. Mina me'ayim et mifradim. Dès les entrailles, ils se séparent. Zé le bishko, zé le tounou. Celui-là pour son fait d'être rachat, et celui-là pour son fait d'être tzadik. Okay. Alors c'est ce verbe de zé le bishko, zé le tounou, qui est la clé du problème. Ça veut dire que dès les entrailles, ils se séparent. L'un pour la vocation matérielle. On va la lire après. Et dans la vocation matérielle, il peut être une tzadik ou rachat, il a préféré être rachat. Et l'autre pour la vocation spirituelle, et dans la vocation spirituelle, il pourrait être une tzadik ou rachat, il a préféré être tzadik. Ça va jusque-là ? C'est les riches hauts, mais c'est les plus mauvais. La riche haute chez l'eau, ça veut dire qu'il y a aussi un petit coup chez l'eau. La réfléchissez bien à ça. Je sens que c'est difficile à intégrer parce que ça va contre des clichés, des habitudes de pensée auxquelles nous sommes familiers habitués. Par définition, les avis sont trapus et par définition, Jacob s'en fait. Alors il va falloir résister contre ça pour arriver à trouver ce que le texte raconte. Il est arrivé que les avis soient devenus rachats, il est arrivé que Jacob soit devenu rachats.
Mais non, vous voulez le contraire. Non, je ne sais pas. Mais
ça, oui, si tu lis Rachid avec ton préjugé. Mais non, regarde, lis en hébreu, n'allez pas en patawet. Zerelcho. Et alors, a priori, il y avait deux options. Et puis il s'est séparé et il est allé à sa Ishrout. Ça veut dire qu'il y avait ou Ishrout ou Tzidkout. Mais Zer est tout le monde. Et vous allez voir d'abord le verset, et après on revient à la question. Prenez avec des lois néerlines, verset 27. Vous y êtes ? Tout le monde ? Avec des lois néerlines, les enfants grandirent. Je voudrais dire les jeunes gens grandirent. Oui. Quand ils étaient bébés, enfants, à force d'être jumeaux, on ne voyait pas la différence qu'il y avait dans leur option. Vous y êtes ? Ils ont grandi, ça se dévoile. Vaïe Yaakov, Vaïe Esav, Ishote Asaïd, Ishsaïd, et Esaü est devenu un homme de chasse, un homme du champ, l'option de la nature, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, et Yaakov Ishtam, et Jacob, un homme paisible, le chevalier, habitant les tentes. Donc, est-ce que vous avez une indication là ? Ça dit qu'on va changer. L'indication, c'est l'option matérielle de la vie du monde extérieur, l'option spirituelle, de la vie du monde intérieur.
Et comme le fond de sagesse.
Où la sagesse
dans
le centre d'âme. Non, il y a chez d'âme, ça veut dire paisible. Pacifique. Okay. À certaines lectures, on peut dire nomade et sédentaire. Les troupeaux, comment on avait vu dans la génération de Kanye.
Par exemple, le mot chasseur, est-ce qu'on doit se reprendre l'aventurier ou.
Le chasseur, dans le sens strict, tue les animaux pour manger. Et alors, le Midrash va expliquer qu'est-ce qui est arrivé d'Ésaü. C'est un chasseur rachat. Et qu'est-ce qui est arrivé de Jacob. C'est un étudiant sadique. On revient à la liste précédente, juste qu'on n'a pas éclaircissant, on ne peut pas avancer. C'est-à-dire, ne vous laissez pas prendre par des préjugés de jugement a priori. Que par définition, un goy est perdu, que par définition, un juif est sauvé. C'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Vous y êtes. Donc, c'est une vocation différente. Et dans chacune des vocations, il peut y avoir des amis pour acheter. Voilà, si on apprend rien que ça ce matin, vous aurez gagné votre semaine. La semaine 5.
Qu'est-ce que ça aurait été, Nissaf, Sadiq et
Joseph. Joseph. Et que ça aurait été un Yaakov Rachar. Tu as entendu parler du Korah. D'où il sort celui-là. Et c'est un descendant prestigieux de Jacob. Le Zé de Moïse. Et mais c'est devenu un ménage. Alors, ne vous laissez pas prendre par les préjugés a priori. Les choses sont beaucoup plus fines et plus réelles, plus concrètes que cela. Alors, je me suis qu'à Mishnah. Kol Israël, Mishnah, Khalek, Ravam. Mais nous, j'ai la haine. C'est la suite. Tout Israël a formé l'avenir. Et voici ce qui n'est pas important. Ou bien, Chassidé, Montarola, Mishnah, Khalek, Ravam. Les juges des nations n'ont pas formé l'avenir. Mais ce n'est pas parce qu'il est goy qu'il est perdu, ou parce qu'il est juif qu'il est sauvé. S'il est goy, Chassid, il est sauvé. Et si les juifs rachètent, ils perdent. Avec les choses qui sont passées. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, qui c'est qui va savoir que c'est un juif rachètent? Qui c'est qui va savoir que c'est un juif rachètent? C'est un autre problème. C'est Dieu qui décide. Vous y êtes? C'est des tafkidim, des vocations différentes. C'est le même problème, je peux le dire. Imaginons qu'ils aient été cachés, tzadik. Et l'amour des frères, que ça se résorbe ensemble, ils sont Israël. Comme ça va se passer dans la descente de Jacob entre les frères de Joseph et Judas. Joseph a le tafkid d'Ésaü Kacher. Et les frères de Joseph autour de Judas ont le tafkid de Jacob Kacher. Et ensemble, ils font Israël. C'est mieux compris?
Vous avez...
Non, si vous avez des objections, objectez. Parce que après on va avancer, mais gardez pas des remords attardés.
Vous
risquez d'avoir des cauchemars.
Vous avez entendu il y avait des gars sur le lieu de la bague entre les sables et.
Tu as dû entendre ailleurs, mais c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez dit. Continue.
Alors, qui
est
le choisir le lieu de la bague, qui est le choisir
le bague plus. Voilà. Tu n'as pas posé la question. Pose-la.
Comme le sable. Pas s'occuper de l'organiser à Kachem, c'est Jacob qui va être obligé de prendre les deux.
Non, ça veut, dire, ça veut dire qu'il aurait pu. Et qui c'est ça, et ça qui pourrait s'occuper de ramasser Kachem, c'est Yosef. Ça va?
C'est pour ça qu'il est disqualifié, ça.
Bien sûr.
Tant qu'il n'y a pas Yosef, il n'y a rien.
Tant qu'Essa n'est pas Rachar, il n'est pas disqualifié. Dès qu'il est Rachar, il est disqualifié. Comme c'est arrivé comme ça. Que de Isaac est sorti une lignée, Esaü, l'option matérielle, elle est devenue méchante, c'est Rome, elle, alors elle est disqualifiée. Mais si on ne refait pas l'histoire envers, imaginons que Esaü était Zadok. Nous aurons eu toute une histoire, tout de suite, entre Esaü et Jacob, il y aurait eu l'alliance de Joseph et Judas, Israël. On ne refait pas l'histoire envers, mais c'est à peu près tout. Est-ce que c'est vrai?
Mais
est-ce
pas un passage dans la Gemara où être clairement que
c'est
un peu
au niveau
de
ses méthodes personnelles. C'est un peu au niveau de ses méthodes personnelles. Tiens, mais c'est la question que je posais moi-même.
Mais si c'est un peu en mal.
Nous allons voir d'ailleurs. Bien sûr, c'est vrai. C'est pour ça que je vais citer votre mémoire. Je vous ai posé moi-même la question tout à l'heure comme ça. Est-ce qu'il suffit d'avoir l'option matérielle pour devenir gangster? Et on a tendance à penser comme ça. C'est ta remarque dans ce sens. Ça veut dire peut-être c'est plus dangereux l'option matérielle, ça rend plus facilement rachat. Mais ce que vous comprenez, c'est qu'a priori, c'est pas fatal. Admettons que ce soit plus difficile. C'est pas évident. La démarche de l'obésité établit que c'est peut-être plus difficile d'être un homme bleu à l'esprit. On peut devenir fou plus rapidement que commerçant en Amérique. Je ne sais pas si vous voulez le dire. C'est David qui parle de ça comme ça dans le papier. Est-ce que c'est clair? Je racontais une histoire. J'ai connu, en mon jeune âge, un commerçant qui est devenu très riche. Et c'est un homme de bien, d'ailleurs, il est beaucoup de bien. Un jour, il m'a confié son secret. Comment il est devenu très riche? Et c'était très simple. Il n'y a pas de secret. Il faut être honnête. C'est que ça existe. Alors il était scrupuleusement honnête. Tout le monde avait confiance en lui. Il a fait de bonnes affaires. Ça n'empêchait pas d'avoir des cauchemars la nuit. Est-ce que le prix que j'ai donné pour telle pièce de tissu, c'est pas trop? Est-ce que je ne vais pas exploiter quelqu'un? Ça existe un commerçant honnête grâce à Dieu. De la même manière, vous avez tous ces curés en qui je vis. Et ils ont avalé de la Bible. À l'église depuis le début jusqu'à la fin de leur vie. Et c'est les trois. Et pourtant, ils se sont foutés de la Bible, de l'esprit. Ça veut dire ça va chercher ailleurs, ça veut dire ça va chercher. Est-ce que c'est bien ce que je dis? Oui, c'est pas impressionnant. Oui.
Dans la vie, il y a toujours des choses. Il y a comme ça, après, la femme, tout ça. Moi, je considère que d'après ce qu'on voit, ça, il paraît qu'il y a un cadre dans lequel la vie est matriarche. Il n'y a pas vraiment des pâles aussi matériels. Il n'y a pas de précédent pour pouvoir s'appuyer dessus.
C'est dans Isaac. Regarde, le verset suivant, verset 28. Et Isaac aima Ésaü. Ah, vous prenez Isaac sur la main. Pourquoi il aime Ésaü? Et le Midrash va expliquer, pendant tout le temps, il était persuadé qu'Ésaü était tzaddik. Ésaü s'est arrangé pour le tromper. C'est-à-dire, l'éventualité d'un Ésaü tzaddik, Isaac, jusqu'à la fin de sa vie, majestueusement, comme on va le voir, pour lui tout va bien, Isaac est dans une euphorie totale. Ésaü a choisi la vocation matérielle, c'est très bien, on va le bénir de sa vocation matérielle, il partagera avec Jacob. Jacob a choisi la vocation spirituelle, c'est très bien. Il va la bénédiction spirituelle, il partagera avec Jacob. C'est Rebecca qui sait que ça va pas marcher. Parce que Rebecca sait que les frères ne s'aiment pas. Isaac lui fait envie. Donc, l'éventualité d'un Esav sadique, a priori, bien que nous sommes habitués à la lecture autre, parce que l'histoire a fait que c'est devenu autre, a priori, l'éventualité d'un Esav sadique est plus que. Est évidente, elle est vraie. C'est le fils d'Isaac. Est-ce que c'est vrai? Il est devenu ce qu'il est devenu. Encore une fois, dans la vie comme elle est, il semble que c'est comme ça que ça se passe. Alors c'est cette impression qui nous fait croire que c'est fatal a priori. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception. La preuve, Joseph. Quand un enfant cherche sa vocation, on lui conseille la vocation spirituelle. Elle, ça ne veut pas dire que ce n'est pas périlleux. Et s'il ne peut pas, s'il ne réussit pas, alors la vocation intérieure. Ça ne veut pas dire qu'on va le condamner à être un chien. Est-ce que c'est clair, celui-là?
Je suis d'accord qu'on ne peut pas avoir de préjugés à priori sur un curé ou sur un commerçant, mais dans ce cas-là, on dit que c'est à partir des entrailles, qu'ils sont déjà dans les entrailles de leur mère, et on voit déjà ce qui se passe. Donc, je vois pourquoi on devrait imaginer.
Attends, là tu le lis dans Rashi, ou dans le verset?
Dans Rashi.
Dans Rashi. Alors Rashi vous fait le lire. Une fois qu'il est arrivé que c'est effectivement le chemin d'être rachat qu'il a choisi, à posteriori, ça veut dire dès le début, sauf au réat qu'il a tout. Mais ça veut dire que c'est librement qu'il a choisi ça, il n'y a pas de prédestination fatale. J'essaye de faire comprendre cela. Si vous admettez cette notion de prédestination fatale, le récit devient incohérent. Où serait le mérite de Jacob s'il est fabriqué comme ça? Où serait le démérite des amis s'il n'est pas venu comme ça? Est-ce que c'est clair? C'est arrivé. Mais a priori, il y a deux options différentes. Avant d'aller plus loin dans vos questions, relisez le verset 27. Dans le verset 27, le peuple du monde va encore. Comme nous savons la suite, nous relisons le verset avec l'explication que l'expérience nous a donnée. Mais le verset a priori ne nous donne pas cette qualification. Il y a d'une part l'option de la vie de nature, la vie extérieure, il faut aménager ce monde-ci, comme ta question à toi, pour l'amaser, okay. Et il y a des raisons pour lesquelles Isaac aime Ésaü, parce qu'il a intérêt à ce que cette tâche-là réussisse. Isaac a les deux principes en lui, et il va les séparer. Une partie le donne à Ésaü, une partie le donne à Jacob. Et ça ne veut pas dire qu'en Yitzhak, il y avait le principe de Tzadik Zerbacha. Il y avait le principe de la vocation, de la bénédiction matérielle et le principe de la bénédiction spirituelle. Et c'est ça qui se sépare. Le Zohar l'a indiqué en montrant que les lettres du mot Yitzhak, c'est Yud Tzadik Zerbacha. Et si on le compose autrement, c'est Ketz d'un côté, Chai de l'autre. Ça, on verra dans un autre cours comment ça se dévoile entre les aïeux. Ketz,
c'est
quoi? La fin. Et vous connaissez l'expression, Yaakov Avinu l'homme, parce qu'il a reçu tout Haï et Yitzhak. Alors, je comprends très bien qu'il y a une résistance à retrouver le chat du verset. Pourquoi? Parce qu'on est tellement familier à ce que voilà ce que l'histoire a fait. La descendance d'Ésaü, c'est devenu la descendance du rachat.
la descendance de Jacob, c'est devenu la descendance de Tchadouk. Mais encore une fois, a priori, c'est pas fatal. Et j'ai fait une familiarité avec ce qu'a été le rêve d'Isaac. Isaac a rêvé à un Ésaü caché. Et il a été trompé jusqu'au bout. C'est la raison pour laquelle, et vous verrez cette surprise dans la suite du récit, quand le moment est venu de transmettre les bénédictions, alors que Ésaü avait déjà renoncé à l'aînesse, Isaac, sans problème, sans hésitation, se propose à donner la bénédiction matérielle à Ésaü. Est-ce qu'il ne savait pas déjà que Ésaü était rachat et que... Il fermait les yeux. Pourquoi il était ici?